au départ de l'histoire, avant même que Isaac ne naisse. Et viens voir, continue Rabiria par Rabbi Yosef, et viens voir, Abba Mea Shanim, 400 ans, Amad Asara, le prince céleste qui protège Ishmael, chef de Ishmael, s'est tenu devant Dieu, ou Bikesh, les inconnus de Rokho, et lui a demandé, il lui a parlé, il lui a dit, Mishenimol, celui qui est circoncis, Ayeshlo Chelek Beshimcha, a-t-il une part en ton nom? Amar Lohen, Dieu lui a répondu, oui. Amarlé. Alors l'ange d'Ishmaël dit, Verre Ishmaël Chenimol, et voici que Ishmaël qui est circoncis, Mipenema Edlo Chelek Bach de Moïtsak. Pourquoi n'a-t-il pas de part en toi comme Isaac? Amarlé, Dieu lui répond, Itsrak Nimol Kavaoui, Itsrak est circoncis comme il le faut, ou des petits couillons, et selon sa règle, la règle de la circoncision, l'essentiel c'est 8 jours. La grande différence, il y a plusieurs différences, la grande différence entre la circoncision d'Isaac, qui est celle de la loi juive, et la circoncision d'Ishmaël, c'est que la circoncision d'Isaac est la circoncision à 8 jours. Alors que celle d'Ishmaël n'a pas du tout cette règle-là, et suivant d'ailleurs les peuples convertis à l'islam, c'est de 13 à une vingtaine d'années, ça dépend des coutumes, parfois avant d'ailleurs, ça dépend des coutumes des tribus qui se sont convertis à l'islam. Et cette circoncision à 8 jours, c'est un thème pour lui-même, c'est très important. Vous avez remarqué à quel point les rabbins sont scrupuleux et vigilants que la circoncision doit avoir lieu à 8 jours. Et si elle n'a pas lieu à 8 jours, ce n'est pas la même. Et il y a un seul cas où c'est possible autrement, c'est quand il y a hémophilie. S'il y a hémophilie, alors on ne fait pas la circoncision. Ou s'il y a maladie, on a fait un autre jour, mais s'il y a eu empêchement par la nature, alors le mérite de la relation à la communauté fait que la valeur de cette circoncision a la valeur de la circoncision à 8 jours. Et ce n'est pas symbolique. Le fait que la circoncision ait lieu à 8 jours fabrique l'identité hébraïque, enfin lui donne le sceau hébreu. Ce n'est pas la circoncision qui fait qu'un juif est juif. Un juif est juif par la naissance, circoncis ou pas. Mais un juif incirconcis, c'est vrai. Et un juif circoncis pas 8 jours, c'est pas... Bon, vous avez compris. Alors, je vous dis ça parce que je sais que dans les temps contemporains, les rabbins ont des problèmes avec leurs juifs à cause du dimanche. Les juifs attendent que ce soit le dimanche pour inviter leurs amis à la circoncision. C'est vrai, malheureusement. Hein. Et alors ça, faites bien attention, c'est pas le moment d'étudier ça. C'est très grave de repousser un jour de la circoncision, de 8 jours à 9 jours. Et même quand c'est Shabbat, on fait la circoncision le Shabbat et à la synagogue. Mais on le fait le 8e jour. Bon, il y a un problème, si l'enfant est né le vendredi soir, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles le vendredi soir, le rabbin doit décider si la circoncision a lieu le dimanche ou le vendredi d'après, mais même pas le Shabbat. Mais tout ça, il y a des raisons pour. Je ne vais pas entrer dans le sujet, mais c'est très important. Ce qui fait qu'un juif, vient de la circoncision à 8 jours. Et, retenez bien.
Si les musulmans avaient adopté à 8 jours, alors si je comprends bien, on aurait encore plus de problèmes.
Pas du tout, ils seraient beaucoup plus proches de nous. Ils arrivent à comprendre des choses. Pas du tout. Alors, et s'ils avaient mangé cachère approximativement, ils mangeaient cachère bétine, encore mieux. Et si au lieu de faire un mois de Ramadan, ils faisaient un jour de Kippour comme il faut, pourquoi pas? Vous comprenez, je veux dire. Et ça m'étonne toujours vos réactions à l'envers. Il est possible de formuler le cas ainsi. La spécificité de l'identité juive, ça reste un mystère. On est obligé de prendre acte, mais une spécificité de l'identité juive. Bon, alors admettons que c'est lié d'abord à la circoncision. Ah oui, voilà ce que je veux dire. Beaucoup d'études ont été faites. Elles existent. Alors je comprends. Donc voilà ce que Dieu répond à l'ange d'Ishmaël. Tu as raison, il se concile, mais pas lui. Pas le sang. Bon. Vélo, et pas seulement cela. Et là, chez nous, Batim Bikao, que les uns sont attachés à moi comme il faut, Karaoui, Dishmonayamim, à 8 jours. Vélo, Rechoti, Mimeni, Akamayamim. Alors que les autres sont loin de moi, jusqu'à tant de jours. Et ici, il ne s'agit plus de jours dans la durée du calendrier, mais c'est un problème de sphère. Amaré. Alors le sar, l'ange céleste, lui a répondu, « Afal pichem, bien qu'il en soit ainsi, qui va chez Nimrod, puisqu'il est circoncis, Aïm Loïlos Rachto Baouzé, n'aurait-il pas un bon salaire pour cela? Et effectivement, parmi tous les goïms, il y a quand même le cas de Ishmaël qui est circoncis, indépendamment du fait que, étant circoncis, son monothéisme est compatible. On dit d'Israël, quel rapport entre la circoncision et la manière de penser de Dieu un, eh bien c'est donc un rapport. Mais quand on entre là dans un domaine de recomposition de l'ordre du monde, comme disait Armand avec Assis hier soir, qui désoriente la pensée occidentale, on ne peut pas ne pas prendre acte de la réalité. Alors, nous, occidentaux, nous sommes incapables de voir le lien entre ces deux réalités parallèles, mais parallèles, est-ce que c'est clair? L'homme de tradition comprend tout de suite là. Mais l'homme de pensée occidentale ne peut pas ne pas se rebeller. Il craint le délire, le vertige du délire. Parce que si on commence à entrer dans un monde de signification pareil, c'est la dérision absolue. Donc ne rentrez jamais là-dedans. Mais sachez que ça existe. Et est-ce que vous comprenez ce que vous dites?
Oui. Ils étaient, parce que maintenant, vous avez absolument raison,
énormément de nations, mais sans doute que leur relation aux réalités spirituelles, à leur manière, est d'une nature hermétique à l'occidental, qui lui n'est pas si possible, quand même. Vous savez que l'occidental qui découvre l'âme africaine et l'âme asiatique est complètement pris de vertige. C'est pas une autre planète, c'est un autre univers. Et d'ailleurs fascinant pour l'occidental. Je connais un peu l'Afrique et les témoignages des Européens qui sont envoûtés par l'Afrique et qui découvrent un monde dans lequel ils savent qu'ils sont étrangers, qui les fascine. Et il y a des catégories d'évidence de l'âme africaine qui, pour l'occidental, il reste à la porte. Et pourtant, il est fasciné.
Sont plus sensibles
quand même spirituels. C'est ça. Et c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Bon, y a-t-il un lien entre les rites et la pénétration dans l'âme, de l'âme? Bon, l'occidental posera la question, la repoussera en disant ça n'entre pas dans les catégories de la pensée grecque. De quelle pensée grecque? Donc, pas la pensée grecque antique, de la pensée grecque. Je referme la parenthèse, vous avez compris pour vous. Le soir ne se gêne pas. Il dit, le cas particulier d'Israël, c'est la circoncision à lui. Alors l'ange d'Ishmaël objecte, n'y aurait-il pas un cas particulier d'Ishmaël, puisqu'il est quand même circoncis? C'est clair? Je continue. Alors je termine sur ce que dit le sar de Ishmaël. Aïm loïelo srarto baouzé, n'a-t-il pas droit à un bon salaire pour cela? Et il ajoute, vaï alzmanaou. Malheur à ce temps, chez Nola, Ishmael Barlam, Venimol, où Ishmael est né et a été circoncis. Maasadrivo, qu'a fait Dieu? Il hik libne Ishmael, mitzbekut ayon. Il a écarté les fils d'Ishmael de l'attachement d'en haut. Benatanaem chelek lemata. Il leur a donné une part en bas. Beret akedosha, sur la terre sainte. Vous voyez ce que le Zohar. Attendez. Je ne vais pas trop laisser le suspense suspendu, vous allez vous rassurer à la fin, mais je veux passer d'étape en étape. C'est le Zohar qui parle, ok? Bon, je continue. Ba'abu mila ali shabayim, à cause de la mila, de cette circoncision qui vient en eux. Alors écoutez, Ba'atidim bene Ishmael, et les fils d'Ishmael, Atidim, sont destinés, le futur, l'Ishlot Ba'ai, de dominer sur la terre à Kadosha Sainte, Keshe ou Reka, mais à Kolzman Rao, lorsqu'elle sera vide un long temps. Reka, mais à Kol, vide de tout, c'est-à-dire vide d'Israël, c'est-à-dire vide de Jacob. Kol. Bien? Alors l'idée est claire dans le Zohar. Lorsque Israël n'est pas sur la terre d'Israël, elle appartient à Ishmaël. Alors vous voyez que, en gardiennage, tout ce que vous voulez, mais vous voyez les implications concernant notre histoire. Est-ce que c'est clair? J'ai même pas besoin de les formuler. Et c'est le Zohar qui nous dit ça, et le Zohar a été mis par écrit il y a très longtemps, je ne vais pas rentrer dans une querelle d'historien, mais il y a très longtemps, avant que l'islam n'existe, et avant que les Turcs, les Arabes ou les Turcs n'est occupé pendant 800 ans, 400 ans chacun, vous avez entendu 400 ans, il y a eu 400 ans de domination arabe, 400 ans de domination turque, avant la fin de la dernière guerre mondiale, où les Anglais ont installé le mandat, et qu'en 1948, c'est les Juifs qui sont venus souverains de la terre. Donc, on pourrait se poser la question, comment savait-il ça, avec ces rabbins du Zohar? La réponse est ça, c'est les rabbins du Zohar. Alors, donc le Zohar a dit, et c'est pourquoi les enfants d'Ishmaël domineront sur la Terre Sainte lorsqu'elle est vide un long temps. Kemo, chez Amila, chez la M, Rekanit et Bishlemut. De même que leur circoncision est vide sans perfection. C'est-à-dire de même que leur circoncision est imparfaite, de même leur domination sur la terre ne peut être qu'imparfaite. Mais en hébreu, ça se dit autrement. De même que leur circoncision est vide de plénitude, de même leur domination sur la terre est quand la terre est vide de plénitude. C'est-à-dire quand la terre est vide d'Israël. J'indiquerai un mot de plus tout à l'heure. Mais, phrase encore plus grave, et à vous, les nés d'Israël, ils lâcheront une commande. Et c'est eux qui empêcheront les enfants d'Israël de revenir chez eux, à Tchétichlès Routahi, jusqu'à ce que sa chair se mérite, chez le béné Ishmaël, des enfants d'Ishmaël, qu'elle mérite le mérite de la circoncision. J'ai pas dit qu'il faut prier pour que les musulmans ne se circoncisent plus. C'est pas ça que le Zohar veut dire d'ailleurs. Il veut dire que Ishmaël et son génie de civilisation a acquis un mérite sur la Terre Sainte, dont les historiens et les polythéistes considèrent avec plus de sérieux que quand les croisés réclamaient leur Terre Sainte. Lorsque l'histoire a parlé de la prétention du monde chrétien sur la Terre Sainte, ben, l'histoire a refermé la parenthèse. Le royaume des croisés, c'est une blague de l'histoire, je ne sais pas comment dire. Sauf pour le consul de la France à Jérusalem, qui est le gardien des lieux saints chrétiens. Ça, vous savez aussi. Le consul de France étant bien sûr chrétien. Il doit être socialiste. Et alors, alors que lorsque c'est les Bnei Ishmaël qui parlent de leurs droits sur ce qu'ils appellent la Palestine, le monde prend ça au sérieux. Il ne sait pas pourquoi, mais le Zohar sait. Je continue. Je ne comptais pas ça au juge, je vais avoir des cauchemars. Mais à qui dit Bnei Ishmaël? Et les enfants, mais alors la phrase du Zohar est très importante, ça veut dire lorsque les enfants d'Israël reviendront, qui les empêchera? Les Arabes. Et à cause de quoi? À cause du fait qu'Ishmaël est né avant Isaac. Mais plus encore, à cause du fait qu'Ishmaël est né avant Isaac et a été circoncis. Parce que lorsque Dieu a demandé à Abraham de circoncire son fils, Abraham voyait Ishmaël. Et vous voyez, ça va nos histoires. Bon, ce que je répète encore une fois, c'est écrit en clair dans la Bible. Et pourquoi il n'y a que les rabbins du Zohar qui voient ça? Probablement parce qu'ils sont des rabbins du Zohar. Je crois tous. Mais à qui dit Ben Ishmaël? Et les fils d'Ishmaël ont pour avenir les horaires Mikhamot Hazakot Ba'olam, de provoquer de grandes guerres dans le monde. Vitasfou Bené Edom Aleem, et les fils de Edom, les fils d'Esaü, se rassembleront contre eux, Vitgaru Mikhamot Ba'em, et se feront la guerre. Achat Alaya, une sur la mer, Vachat Alaya Bacha, et une sur la terre, Vachat Samouk Yerushalayim, et une près de Jérusalem. Ishletou, mais Ishletou et Lébélé. Et ils domineront l'un sur l'autre. Il y a certainement une allusion à ce qui s'est passé entre les chrétiens et les musulmans pendant les croisades. Vere Tzakadosha, l'autre qui m'a servi de Nédo. Et la terre sainte ne sera pas livrée aux descendants des Aïe. Bismanaou, en ce temps-là, it aurait Amechad ni Sofarolam, se lèvera un peuple du fin fond du monde. Al-Roma Rishra contre Rome la méchante, et il garba Mikhama sur Shayarachi. Et il fera la guerre pendant 3 mois. Vitasku Shama, Amin, et là-bas se rassembleront les peuples, Vitu Viedeel, ils tomberont entre leurs mains. Ashitasku Kotene Edom Aliyan, Kol Xaver, jusqu'à ce que tous les fils des Aïe, toutes les extrémités de la terre, se rassemblent contre eux. Hermétique, hein, c'est pas encore arrivé, c'est déjà arrivé, j'en sais rien, mais c'est pas ça que vous voulez dire. Je vais vous lire le passage, mais juste à la fin. Le Véaz, il trouve à Kadjimofale. Et alors, Dieu se lèvera contre eux. Zemachetatou, c'est ce qui est écrit, qui est Zevachat Lachem le Botsra. Kav, il y aura un sacrifice pour Dieu à Botsra. Botsra, vous avez entendu parler de ça? Botsra. Bassora, ça me dit quelque chose. Bon, je continue. Lacharkar, Makatouf. Et après cela, qu'est-ce qu'il est écrit? L'échol du Smefoutarek. Bon, je continue. Et après, puis Mishmael et Mena, et il retranchera les enfants d'Ishmaël de la terre. 5. Les Ishbour, Kolasarim, Aleem, les Marla, et tous leurs princes célestes seront déchus. L'Oishaer, Sarle, Marla, Al-Motarla, il ne restera plus de princes célestes pour les nations du monde. Et là, Assar, chez l'Israël, Bimbalo, mais seulement le prince céleste d'Israël, seul. Il a le Manahoukti, et sur ce temps, il a été écrit, Yaz, Erkor, Ramim, Safa, Boura, car alors je déverserai sur les peuples une langue épurée, l'Ikro, Kulam, Hashem, Hashem, pour invoquer tous le nom de Hashem, Yaoudo, Hashem, Echad, pour le servir d'une seule épaule, littéralement. Echatou, il est écrit, Bayom Arou, il est Hachem Echad, Bouchon Echad, il est écrit, en ce jour-là, sera Dieu un, et son nom sera un. Bon, ben, ça c'est la fin que je voulais vous dire pour vous rassurer. Tout finit bien. À quel prix, personne ne le sait. Mais ce qu'il faut indiquer, l'intention de cet enseignement, c'est que c'est une histoire qui commence entre Abraham et Ishmaël, et qui finalement se réalise historiquement lorsque les fils d'Israël voudront rentrer chez eux et que les fils d'Ishmaël les empêcheront. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en ligne. C'est clair. Et bon, il en restera des bouleversements jusqu'à ce que. Alors, je crois que ça suffit comme indication. Et alors, je voudrais un peu analyser certains points de l'enseignement du jour. Vous savez, il y a deux périodes dans l'histoire de l'Israël contemporain, les 40 ans de l'État d'Israël. Il y a jusqu'à 67 et à partir de 67. Vous avez senti ça. Jusqu'à la guerre des six jours, l'opinion publique était pour Israël, l'opinion publique juive compris d'ailleurs. Et à partir de 67, tout s'inverse. Et nous sommes encore dans cette période à partir de 67. C'est clair jusque-là ce que vous êtes comme indicateur. Or, jusqu'à 67, de 48 à 67, quel a été l'objectif de la guerre de libération des juifs? C'est lutter contre les Anglais. En 1948, on a réussi, comme vous les gendarmes, à bouter les Anglais hors du territoire de la patrie. Vous disiez bouter.
Bouter, oui.
Oui, et bien on l'a fait là-bas. D'ailleurs, je me souviens, à ce moment-là, nous avions reçu à Orsay les scouts bretons, les éclaireurs catholiques bretons, les scouts catholiques bretons, qui étaient venus contracter alliance avec les éclaireurs israélites à Paris. Ils ont dit, on découvrait l'Amérique. Ils ont dit, nous avons le même ennemi, vous avez bouté les Anglais dehors, ben nous aussi, on les boutera dehors, même de l'Angleterre, enfin des Pays de Galles, je ne sais pas quoi. Et alors, ils nous ont chanté la sylva sur la cornemuse. On était un petit peu comme ça. Alors, je reviens au problème, c'était au temps de Gérard Alexandre. Et alors, à partir de 67, tout change. Or, jusqu'à 67, nous étions aux prises avec les fils d'Ésaü. Alors, les fils d'Ésaü n'ont pas de Achiza, d'après ce texte, puisqu'ils ne sont pas circoncis. Ça, c'est la prétention d'Ésaü contre Jacob. Et là, l'histoire, le monde entier, va prier, les Juifs reviennent, puis évidemment pas les chrétiens qui vont les empêcher. D'ailleurs, entre-temps, il y avait la Shoah, et donc Rome s'est pris. À partir de 67, on avait affaire avec les Arabes et plus avec les Anglais. Tout a changé d'un coup, vous avez remarqué. Et corollairement, le sionisme, jusqu'à 67, n'avait pas tellement besoin de se baser sur la Torah, sur le mérite des misérables. Effectivement, c'est le sionisme du parti travailliste qui était au pouvoir jusqu'à 67. Vous avez remarqué tout ça, hein. Et puis, Gush Emunim est apparu en 67. C'est-à-dire un sioniste au nom de la Torah. Parce que là, on avait affaire avec Ishmaël. Alors qu'il fallait le scoop de la Torah. Et nous sommes en plein dans cette phase de ce dont parle ici le Zohar. Donc, c'est ça. Je vous signalerai d'ailleurs un enseignement du Rav Kook à ce sujet que vous avez très très longtemps. Il dit, parlait de 48, la déclaration d'indépendance. Il dit, en 1917, il y a eu la déclaration de la Kook. Après la victoire des Alliés en 1918, il y a eu un moment de l'inquiétude chez les kabbalistes, qui aurait le mandat sur la Palestine, puisque c'était la commission Picot, il a fait. La commission Picot, il devait décider ce serait les Français ou les Anglais, parce qu'il s'agissait de la province sud, de la Syrie, de l'Empire turc. Finalement, c'est passé aux Anglais, on a dit ouf. Pourquoi ? Bien parce que, bon, jusqu'en 1917, c'était les Turcs qui étaient dans le pays, pas les Arabes, mais les musulmans quand même. Or, arracher l'Israël aux musulmans, c'est dur. Vous voyez pourquoi ? À cause de la circoncision. Alors, les chrétiens sont mis à la place, on a dit. Mais miracle dans le miracle, pas les Français, les Anglais. Pourquoi ? Parce que les Français sont catholiques. Et les Français catholiques, les lieux saints, c'est... les lieux saints, c'est le préserve. Donc, les juifs aux lieux saints, les protestants se fichent éperdument des lieux saints. Et en plus, ils lisent la Bible, alors que les catholiques lisent la Bible. La déclaration Balfour n'a été possible parce que Balfour était anglais. Si Balfour était français, il n'y aurait jamais eu de déclaration Balfour. Parce que Balfour savait que d'après la Bible, eh bien, les juifs, c'est ça Israël et c'est leur terre, allez, bon, cadeau après 2000 ans. Mais un français, imaginez, jamais la Bible. Alors, il y a eu un miracle dans le miracle. Les chrétiens sont arrivés et ça a été facile avec les Anglais. Alors que ça avait été les musulmans, quand ils étaient, on ne pouvait pas. J'ai remarqué ça. Et puis, que ce soit des protestants et pas des catholiques. Ça, c'est jusqu'en 67. On a eu affaire dans l'opinion publique entre Jérusalem et Rome. Mais à partir de 67, pour l'opinion publique, c'est Jérusalem juive, Jérusalem arabe. Vous remarquez ce qui se passe. Et alors, c'est la raison pour laquelle, depuis 67, le mérite à mobiliser pour Israël doit être un mérite des mitzvot beaucoup plus qu'avant 67. Parce que jusqu'avant 67, il suffisait du sionisme de Ben Gurion. Donc, à partir de 67, il fallait le sionisme de Rav Kook. Vous voyez comment ça arrive. C'est clair? Non. Alors, allez expliquer ça aux juifs. Et j'ai tenu à vous lire le texte jusqu'à la fin pour que vous sachiez que, avant de lire le commencement, on ne l'avait pas lu. Mais il fallait arriver à la fin. Vous avez essayé. C'est que, on sait où on va, mais on ne sait pas à quel prix. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Oui. L'une des premières conclusions de la dualité.
De là?
Je ne sais pas si on peut appeler cette dualité des oppositions présentes à la présence juive, et que, en fait, est-ce qu'on peut considérer que plus l'entrée des juifs en Israël, et plus par des actions, je ne sais pas lesquelles, les Arabes.
Écoutez, c'est pas. Pour moi, c'est une évidence.
C'est une évidence à la fois métaphysique et mathématique.
Absolument.
Voilà. Donc, une puissante Aïa de masse fera en sorte que par des.
Vous savez, l'Aïa de masse, je ne crois pas. Ouais. Parce que, je vous dis pourquoi. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans l'Aïa. Mais, Anima Ami, une Bémouna, je ne sais pas. Mais, parce que l'Aïa de masse n'a jamais été déclenchée que par des catastrophes. Alors, il vaut mieux s'en passer. Il n'y a de Aïa que l'un par l'un. Attendez, je vais vous dire. Et je suis dans votre question. Très souvent, on me pose la question, mais est-ce qu'il y aura de la place en Israël pour tous les juifs ? C'est un alibi colossal. Je réponds toujours, peut-être que pour un, il y a encore de la place, attendez, je vais téléphoner, mais ne vous occupez que de vous, ne vous occupez pas aux autres. Il faut bien laisser du travail à la journée. Mais c'est un faux problème. L'Aliya, c'est un par un. Et nous avons des versets pour ça. Et Achad, Achad, c'est la Ktoub de Némisra. Un par un. Et c'est vrai, l'Aliya, c'est un par un. Alors c'est un faux problème de parler de l'Aliya de masse, parce que moi, je n'y crois pas. Enfin, aucun Israélien n'y croit. Parce que l'expérience que nous avons, c'est que l'Aliya de masse, c'est toujours après des catastrophes. Alors on ne veut pas de catastrophes. Oui, oui. Alors continuez.
Mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je voulais dire que le principe est inexplicable de la logique. Que les arrivées successives en masse ou un par un en terre d'Israël feront que par des résultantes qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, puisque ça n'est pas logique, la place se fera d'elle-même. Si vous voulez, dans le même ordre d'idée que lorsqu'on est arrivé à la mer Rouge, c'est quand, au fur et à mesure qu'on a avancé jusqu'au bout, que les eaux se sont déplacées. Donc, au fur et à mesure qu'on arrive, de par des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, peut-être que vous le savez, mais moi je ne sais pas, mais non plus, la place se fera d'elle-même par la manière, de manière la plus inattendue qu'on puisse imaginer à cet instant-là. C'est pour ça qu'on peut peut-être, tout en envisageant une alia de masse, calculer sur les fondements de la logique, on peut, et si parce qu'elle sera fondée sur la logique, cette alia de masse, elle pourra se faire sans drame.
Oui, je veux bien. Mais comme disait Chepiti, il est minuit, docteur Schweitzer. Il ne faut pas la chose à venir tout. Vous voulez la dresser là, ce n'est pas ici, mais je veux mieux.
Bon, de piscine.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en plein ubuesque, un monde ubuesque, de quoi on parle ici à Paris. Mais c'est ça ce que dit le Zohar. Il dit très clairement, qui peuplera cette terre, ou un juif ou un arabe. Alors pour un juif qui est là-bas, il y a deux arabes en plus. Parce que c'est Ishmaël, il faut deux. Bon, tout va d'ailleurs. Sans échange de prisonniers, c'est je crois 10 000 pour 6 ou 12 000. Donc, enfin, en refermant la parenthèse, nous ne savons pas comment ça fonctionne. Nous ne savons pas du tout comment ça fonctionne. Ne croyez pas que nous savons. Les prophètes n'ont pas dit, les pharisiens n'ont pas dit comment ça fonctionne. Ils ont dit quel est le déroulement des événements. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Jusqu'avant 67, le jour de Pessah, on a une prière à dire au Kotel. Le Kotel est entre les mains des Jordaniens. Alors, monter sur la plus grande maison de Jérusalem, loin à 18 mètres, pour voir le côté et dire la prière en ligne. Et alors, avec les jumelles, on voyait les autobus jordaniens, au fond, à l'horizon, une autre planète. Et on était encore dans le rêve de 2000 ans, quand Jérusalem, parce que la vieille ville, c'était le faubourg, Montefiore, hein, mais c'était pas Jérusalem. Subitement, à la jambe des Sioux, le roi Hussein est devenu fou, il nous a fait cadeau de Jérusalem. D'ailleurs, il y a quelque temps, il nous a fait cadeau de la Cisjordanie, je ne sais pas si vous avez réalisé. Il a dit, Maïna, comme on dit en arabe, j'en ai marre, prenez-la. Alors, c'est Alger qu'Arafat a dit, c'est à moi. Mais il doit être à Beyrouth, maintenant, je ne sais pas. Et alors, subitement, on ne savait pas du tout comment ce rêve, jusqu'à la veille, c'était un rêve utopique. Jérusalem, c'est une légende. Subitement, que ça fait ça. On ne sait pas. Et quand ça arrive, ça. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans, les Juifs et le monde entier sont habitués à une situation de fait, mais imaginez 2000 ans, c'était que peut-être c'est normal que les Juifs soient jeunes. Mais ce qui est arrivé entre temps, et je crois que Hussein est un homme providentiel, chaque fois qu'il y a une guerre à ne pas faire, il l'a fait. Là. Je me souviens de la conversation qu'il avait eu au téléphone avec c'était Nasser, et qui a déclenché l'entrée de Hussein dans la guerre. Pendant ce temps, Teddy Kollek avait téléphoné à Hussein par ONU, en lui disant, je paraphrase, disons, sketch de pourri, mais ça s'est passé comme ça, dites à Hussein qu'il fasse taire cet amant, est-ce qu'il veut vraiment que je sois le maire de la Jérusalem réunifiée? Alors, dit il ne peut pas vouloir. Et Hussein qui s'entête, moi non, je suis un musulman pieux, je sais que, il y a écrit dans le Zohar que c'est à vous, je vais le prendre. Vous voyez comment ça s'est passé. Et on va prendre les choses comme ça. Alors, le problème, c'est pas tellement pourquoi il y a tellement d'arabes en Israël, c'est pourquoi il y a passé tout.
Bien sûr.
Parce que, alors je vous raconte une histoire. Au moment de la guerre des Six Jours, le grand mufti de Jérusalem a fait dire à Moshe Dayan le lendemain de la prise de Jérusalem, de la libération de Jérusalem, bon, nous savons que vous êtes venus pour construire le temple. Permettez-nous de démonter la mosquée et de la remonter ailleurs. Oh. Et Moshe Dayan a dit, de quoi tu parles? Mais jamais de la vie, vous êtes chez vous, nous sommes des frères, drapeaux des imams. On est la réaction de lui. Authentique.
Je ne comprends pas, ça aurait été une bonne chose. Hein.
Absolument. Mais écoutez, ça fait 2000 ans que ça dure, l'histoire des Juifs comme ça.
C'est pas cette histoire-là ?
Mais oui, c'est vrai. Ah. Il s'est pris de panique. Et le mufti de Hébron était persuadé qu'on allait passer tous les habitants de Hébron au fil de l'été comme on dit dans la Bible, après ce qu'ils ont fait dans les années 20. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé à Hébron dans les années 20. Les gens de Hébron étaient paniqués. Et Moïse leur a dit, on a fait la paix. Restez chez vous, vous aurez un maire arabe, vous aurez ce que vous voudrez, et surtout, considérez-vous comme chez vous. Ça fait, je ne critique pas du tout Moïse d'ailleurs, c'est un autre problème, ça, c'est... Mais c'est la réaction des Juifs. Une utopie optimiste colossale. Et vous avez compris ce que vous
dites ? J'avais dit oui, il aurait commencé à faire ça.
Mais bien sûr.
Sa mosquée ?
Bien sûr. Et le monde entier n'avait pas vu. La stupéfaction que 2000 ans après Rome, on est revenu sur la lanterne du temps, ça n'aurait pas pesé lourd pendant 24 heures, le temps qu'il fallait pour venir. Après, ils auraient fait appel trop tard. C'est un instant.
Est-ce que les rabbins du Zohar, ou vous peut-être, les catholiques d'aujourd'hui, peuvent expliquer cette formidable, incompréhensible, anormale apathie du peuple juif qui, pendant 2000 ans, après toutes les leçons qu'il a reçues au bris des chapeaux, et encore aujourd'hui, continue à regarder de loin, le cœur quelquefois battant, mais en restant sur place, cette paralysie, cette apathie.
Écoutez, voilà, nous avons étudié.
Comment l'expliquer ? Comment expliquer qu'une mère qui voit son enfant se noyer dans l'eau, au lieu de courir à son secours, le regarde de loin pendant 2000 ans et lui dit Je vais venir. Je ne comprends pas.
Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Je ne peux pas vous donner aucune explication. Nous avons la grande certitude, c'est pas un principe. Tout juif est juif, même un juif pieux. Alors, c'est ça.
Alors, ça peut être important.
Je vais vous raconter une histoire, mais je ne sais pas. Moi, je vais être bien clair. La Bible a raconté l'histoire du peuple d'Israël. Et nous sommes le peuple d'Israël. Et nous sommes le peuple d'Israël. Mais remarquez l'humour de la scène. C'est vous qui posez la question et c'est moi qui réponds.
Oui.
Et vous posez la question à Paris et moi je réponds de l'Israël. C'est ça l'humour. Et alors, normalement, c'est à moi de poser la question, on va répondre. Okay. Mais la Bible nous a raconté l'histoire d'Israël. Nous sommes Israël. Alors, cette histoire, on l'a étudiée un peu dans ce séminaire, et ce texte nous montre cela. Voilà l'attitude d'Abraham vis-à-vis d'Ishmaël, alors que le sort d'Isaac est en jeu. Vous comprenez le problème ? Or, on a appris dans ce séminaire que nous ne sommes pas Abraham. Nous ne sommes pas Isaac, nous sommes Israël, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et notre engagement dans la vie doit être celui d'Israël, et non pas la vertu d'Abraham, qui est la charité absolue. Et donc il est normal qu'Abraham soit charitable pour Ishmaël, et pendant qu'il est occupé à être charitable pour Ishmaël, eh bien il ne pense pas à Isaac. Et inversement, l'histoire d'Isaac, on l'a fait étudier à ce séminaire, mais il y a des tendances dans la société juive qui sont d'Abraham ou d'Isaac, et qui rendent la tâche d'Israël difficile. C'est le fils et la mère, n'avons pas. La mère, elle est abrahamique, mais le fils, il est Jacob. Bon, je dis ça en langage. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais là, je vais vous demander d'arrêter l'enregistrement. Là-bas, ça ne va pas s'arrêter. Parce que je ne voudrais pas que ça s'écoute, je sais que ces cassettes se baladent dans le monde entier. Et je me trouvais il y a quelques années à Paris, dans un club juif. Et on parlait d'un enseignement de Torah, alors inévitablement, il y a un juif pieux qui s'est levé, qui m'a interpellé sur Israël. Et qui me dit, vous arrivez à m'entendre ? Oui, qui m'a dit, mais je voudrais des garanties que je peux être religieux en Israël. Je le regarde stupéfait, et je lui ai répondu spontanément ceci. Si tu as besoin de garanties pour retourner chez ta mère, c'est que peut-être c'est pas ta mère. Alors il y a un silence dans la salle, c'était ta mère. Ne tirez aucune conclusion de ce que j'ai dit. On revient au sujet. Quel pays ?
Oui, j'ai été un petit peu déçu que vous ne puissiez pas répondre à cette question que j'ai posée. Excusez-moi.
Mais vous avez sûrement vous une explication.
Oui. C'est un essai, c'est une théorie, ouais. C'est ce que ça vaut. Il faut bien échafauder des théories, vous ne pensez pas. Et moi, j'ai l'impression que cette générosité aveugle qui héritait d'Abraham et dont a fait cadeau Dagan et la Wifi, par exemple, l'un des aspects de l'histoire. Et je ne sais pas si c'est vraiment de la générosité au niveau de Dagan, si ce n'est pas quelque part une sorte de masochisme de hériter à la suite de 2000 ans de souffrance. Car il y a dans toutes les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, instituées ou non, par l'histoire, par l'échec, quelles qu'elles soient, lorsqu'un être fait et refait et entend et réentend pendant pas seulement depuis sa naissance, mais depuis des générations, il finit par, cette pensée, ce sentiment finit par s'imbriquer dans sa cellule au point que la cellule qui se transmet de génération en génération est imprimée de ses sentiments, de ses idées, de ses. Et ce qui fait que lorsqu'un individu a trop souffert depuis des générations, la souffrance est inscrite dans ses cellules et il devient comme drogué de souffrance au point qu'inconsciemment il la revendique. Et c'est dans ce besoin inconscient de revendiquer la souffrance que peut-être il y a ce débordement de générosité qui nous retombe sur la figure.
Très bien. Écoutez, comme l'heure arrive, je vous réponds en une phrase. Votre explication existe, nous l'entendons souvent, elle est cohérente d'ailleurs, mais elle ne peut pas répondre à la question, parce que des mêmes cellules, la même hérédité, la même expérience, une partie a construit l'Israël et une partie est dans la partie que vous dites. Donc ça ne suffit pas à rendre compte, il y a un mystère. Pourquoi du même famille, avec la même hérédité, un est comme ça, l'autre est comme ça. C'est qu'il y a autre chose. On nous dit souvent, au bout de 2000 ans, le peuple juif est devenu lâche. Bon, c'est pas vrai, c'est un peuple héroïque pendant 2000 ans et encore aujourd'hui. Et ça ne suffit pas exactement.
Juste pour en revenir à l'islam, le fait que Mahomet soit le dernier prophète, comme l'islam, enfin, c'est comme ça qu'il le.
Oui, que l'islam le dit.
Oui. Est-ce que c'est pas un problème le fait que quand Israël retourne sur sa terre, la prophétie peut repartir, devoir repartir? Est-ce que c'est pas ça aussi que ça contredirait que Mahomet soit le dernier prophète?
Oui, mais en attendant, on a un problème avec le paix.
Un grand problème.
Et notre problème, c'est le problème que monsieur a posé, le nombre de juifs qu'on avait d'Israël. La Shrina revient, mais elle revient au prorata du nombre de juifs. On a une petite Shrina. Je vais raconter une dernière histoire et puis on s'arrête là pour ce soir. Avant que je vous dise, demain nous avons cours à 10h30 à la salle 5. Alors j'ai prévu la récapitulation du séminaire, surtout des études de texte. Si vous avez des questions à préparer, vous me le direz, on les étudiera demain. Il y a eu en Israël il y a quelques années ce qu'on appelle l'affaire Shalit. C'était. Vous avez entendu parler de l'affaire Shalit? Bon, peut-être je vous raconte très rapidement. C'était une femme scandinave qui avait épousé un Israélien et qui ne s'était pas convertie au judaïsme et qui tenait absolument à ce que, sur sa carte d'identité, on ne mette pas juive mais israélienne parce que. Vous savez, dans la carte d'identité israélienne, il y a arabe, juif, tcherkesse, top, c'est notre problème. Des problèmes de sécurité, donc c'est indispensable, parce qu'elle ne voulait pas, on lui impose d'être juive pour être israélienne, bref. Alors, la mairie, en général, a demandé de mettre chrétienne. Non, elle voulait israélienne, mais pas juive. Il y a eu, ça a commencé à ce moment-là, le problème, qui est juif? Les juifs, ça a commencé là. Et de remous, surtout dans les universités, je vois aussi ça passe pas beaucoup de temps. Et j'ai assisté à une assemblée à l'université de Jérusalem, où la majorité était des jugements religieux de la gauche israélienne, universitaire. C'est le Rav Neria, qui est le chef du réseau des Yeshivot de Bnei Akiva, qui devait faire sa conférence sur ce problème. Il commence par dire, par l'hébreu bien sûr, tous les jours, dans ce pays, on verse du sang juif innocent et vous ne réagissez pas. Silence dans l'assemblée. On dit, mais oui, on circoncit vos enfants et vous ne réagissez pas. Il s'agissait en majorité de non-croyants. Silence opaque. Il y en a un qui se lève et qui dit, en bel hébreu, tu nous as pris pour des bâtards. Ça veut dire que si vous voulez dire, on ne va pas circoncir nos enfants, ça ne va pas. C'est un mystère. Hein. Imaginez les gauchistes anti-religieux. Et qui se sont sentis insultés parce que, et ils ont compris le leçon, d'ailleurs la conférence s'est arrêtée là, ils ont très bien compris. C'est-à-dire que la circoncision est un mystère, c'est la garantie Israël est bien Israël. Or, c'est une mitzvah que tous les juifs en Israël pratiquent, on va dire, vous savez qu'il y a des marginaux partout, mais on compte sur les doigts de la mer, donc Shalit, en fin de compte, cette famille a quitté le pays et est en Scandinavie. Bon. Mais il y a quelque chose d'inexplicable. C'est-à-dire, Israël sait inconsciemment que la circoncision le protège. Vous avez toute la gauche israélienne qui n'a rien à voir avec la Torah, mais qui garantit, qui a construit le pays, en grande partie, c'est la gauche qui construit le pays, à l'origine, okay, et qui garantit son identité. Ce qu'a dit le Zohar avec la circoncision des petits de la chômeur, etc. Alors, en tout cas, je vous rappeler, n'oubliez pas à Paris, à 8 jours, il n'y a 9, il n'y a 10. Alors, Mazato pour les enfants qui vont naître. Il y a tout à fait.